Seigneur, ta parole est la vérité et la vie, sanctifie-nous par cette vérité. Si quelqu'un entrait dans ce temple et vous donnait 430 000 euros, qu'est-ce que vous feriez avec? C'est à peu près l'actualisation de ces 5 talents que reçoit un des serviteurs. 430 000 euros, c'est quand même une belle somme qui peut changer une vie. Vous achèteriez des 6 caves, des obligations, une maison au bord de la mer. Peut-être que vous donneriez cet argent à des gens qui en ont besoin. Peut-être que vous investiriez dans EcoCrédit, cet organisme chrétien qui permet à des gens de petites conditions de pouvoir investir, faire leur entreprise et vivre de leur travail. 430 000 euros tout de même, ça change une vie. Cette parabole des talents est une parabole. Et comme toute parabole, elle nous dit à quoi ressemble le royaume de Dieu et non pas ce qu'est le royaume de Dieu. Ce qu'est le royaume de Dieu, seul Dieu le sait, on ne peut que l'approcher. Et donc en lisant cette parabole, ma première réaction est d'avoir, peut-être comme vous, un sentiment de malaise. Peut-être d'abord un sentiment de malaise vis-à-vis de l'interprétation première que l'on pourrait faire, interprétation qui est faite d'ailleurs dans certaines églises, sur tous les continents, qui met en place une théologie de la prospérité, qui dit en gros ceci: si nous sommes les bien-aimés de Dieu, alors forcément nous devenons riches. Si nous sommes les bien-aimés de Dieu, si nous sommes les élus de Dieu, alors forcément nous allons être couverts de bénédictions, et celui qui n'est pas riche et celui qui n'est pas prospère, c'est qu'il est mal aimé de Dieu. Ça vous paraît peut-être absolument étrange ce que je vous dis, mais c'est une prédication qui est prêchée dans certaines églises et qui pourrait être rapprochée de cette parabole des talents, puisqu'à celui qui a 5, on donne 5 autres talents supplémentaires. Il me semble, et même je suis absolument persuadé, que cette théologie de la prospérité est bien éloignée de l'évangile et contraire à l'évangile. Si on regarde la vie de Jésus-Christ, lui le bien-aimé de Dieu, lui le serviteur de Dieu par excellence, a été bien loin d'avoir une vie prospère. Et au contraire, il a affirmé au cours de son évangile, dans toutes ses paroles, que celui qui va être le bien-aimé de Dieu doit accepter de perdre sa vie pour la gagner, de perdre sa vie aux yeux du monde pour la gagner aux yeux de Dieu, sachant que ce qu'il y a à gagner n'est pas dans ce monde, mais dans la vie éternelle. Donc, première clarification que je tenais à faire avec vous, cette parabole des talents n'est pas là pour essayer de favoriser, de mettre en lumière une théologie de la prospérité. Deuxième malaise quand même quand on lit cette parabole, c'est qu'elle est tout de même assez dure. Assez dure puisque ce serviteur qui a reçu un talent l'enterre parce qu'il est jeté dans les ténèbres, parce qu'il reçoit une parole dure de la part de son maître. C'est extrêmement dur. Peut-être nous faut-il entendre que l'évangile a aussi en lui une dimension dramatique et que l'évangile aussi nous exhorte à affronter la dureté et la sévérité de ce monde. Mais qu'est-ce qui est reproché finalement à ce serviteur? Il me semble, en tout cas c'est l'analyse que j'ai, ce qui lui est reproché c'est qu'il a une mauvaise vision de son maître. Il lui dit: voici pourquoi j'ai enterré ce talent, c'est parce que je savais que tu es un maître dur, je savais que tu es un maître sévère, j'ai eu peur de ta sévérité, j'ai eu peur de ta dureté, c'est pourquoi j'ai enterré mon talent. Qui dit que ce maître était si sévère? Qui dit que ce maître était si dur? Il me semble que c'est une mauvaise interprétation de la part de ce serviteur de voir dans son maître quelqu'un de dur et de sévère. Et peut-être il y a là derrière cette parabole aussi la parole portée par bon nombre de nos concitoyens qui ont des a priori, et notamment des a priori sur Dieu. Nous savons si Dieu existe que c'est forcément un Dieu sévère. Nous savons que si Dieu existe c'est forcément un Dieu qui nous appelle à l'obéissance. Nous savons, ils savent. Alors qu'ils n'ont jamais expérimenté, alors qu'ils n'ont jamais tenter, fait le pari, comme disait Pascal, d'entrer en relation avec Dieu. Donc il me semble que ce qui est reproché à ce serviteur, c'est de croire, c'est de savoir, au lieu d'avoir expérimenté, non pas la sévérité de son maître, mais d'avoir expérimenté la bonté, la grâce, l'amour de son maître. Et voilà aussi ce que nous avons peut-être à répondre à nos concitoyens qui parlent sur Dieu sans le connaître, avant de parler sur lui, avant d'avoir des a priori sur lui, eh bien, expérimentez cette relation avec lui. Faites le pari d'entrer en relation avec lui. Faites le pari de la foi. Mettez-vous en marche. Et alors, peut-être, après avoir expérimenté, vous pourrez porter une parole juste ou moins juste sur votre Seigneur. Le royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui donne 5 talents à l'un de ses serviteurs, 2 à un autre et 1 à un autre enfin. Même si, et je vous l'ai dit, je crois assez fermement, cette parabole ne peut mettre en lumière une théologie de la prospérité, il y a là quand même un appel à oser, un appel à croire en la vie, cet appel-là, à oser, à investir, à croire en la vie. C'est un appel qui a été reçu par le protestantisme, vous le savez bien, hein. Max Weber a écrit là-dessus en disant que le protestantisme, s'ancrant sans doute dans de nombreux textes bibliques, notamment dans celui-ci, a exhorté des capitaines d'industrie à investir et à faire des fortunes. Et ça, il ne faut pas le nier, et même on peut, je le crois, s'en réjouir, pourvu que cet appel à l'excellence soit lié... Et pour moi, c'est très important, un appel à la bienveillance. Excellence et bienveillance. Et si cela est vrai, je le crois, devrait être vrai dans le domaine de l'économie, cela devrait être vrai aussi dans le domaine de l'éducation. J'ai 2 jeunes filles, peut-être vous le savez, de 18 et 20 ans, qui sont en plein dans leurs études supérieures. Et je suis étonné combien dans les études supérieures qui visent à l'excellence, bien souvent la bienveillance est absente. Bien souvent la bienveillance est absente. Et au lieu d'encourager, au lieu d'exhorter, au lieu de permettre à chaque jeune de donner le meilleur de lui-même, eh bien, on le pousse plutôt dans ses retranchements et plutôt l'idéologie, c'est d'essayer de le faire craquer. Et j'ai bien aimé entendre la ministre de l'Éducation réaffirmer ceci. Oui, il est légitime dans notre pays d'avoir une volonté d'excellence pour nos jeunes. Il est légitime dans notre pays d'avoir une volonté d'excellence dans le domaine de l'économie, mais cela n'est pas incompatible avec des valeurs humaines. Cela n'est pas incompatible avec la bienveillance. Excellence et bienveillance sont 2 mots, je le crois, qui peuvent se conjuguer tout à fait bien ensemble. Il me manque dans cette parabole un serviteur. Il y a celui à qui on a donné 5 talents et qui a reçu 5 talents. Donc, il y a celui qui a reçu 2 talents, qui l'a fait prospérer ses 2 talents, qui en a reçu 2 autres. Il y a celui qui a reçu un talent et qui l'a enterré. Mais il me manque celui qui a osé, celui qui pensait que son maître n'était pas un maître dur, mais un maître généreux, qui se dit, ben, je vais tenter l'aventure, je vais investir ce talent, et puis qui investit ce talent et qui perd de l'argent, qui perd ce talent. Il me manque celui-là. Il me manque celui-là. Ça aurait été beau. On aurait pu imaginer que le maître de maison lui dit, ben, écoute, c'est pas grave, je t'avais dit, je t'avais confié cet argent, tu as tenté le coup, tu as risqué, tu as osé, et puis tu as perdu, c'était pas grave, tu m'as fait confiance, et puis ça aurait été l'occasion d'annoncer la grâce du Seigneur, d'annoncer la grâce de Dieu, c'est pas grave, je te redonne un talent. Il me manque celui-là. Je me suis demandé pourquoi il n'était pas dans la parabole. Et je me suis dit, ben, s'il n'y est pas, c'est que quand on fait confiance à Dieu, on ne peut pas perdre. C'est pas comme dans l'économie où il y a toujours un risque. Évidemment, il y a un risque, hein. Même si on est le meilleur analyste, changement de situation mondiale, changement de manager, crise du pétrole, on ne peut pas tout maîtriser dans l'économie, c'est le jeu. Mais voici, j'entends en tout cas cette bonne nouvelle, que quand on fait confiance à Dieu, quand on décide d'investir, si je puis dire, dans l'Éternel, dans le Seigneur, eh bien, on ne peut pas perdre. Bien sûr, on peut perdre aux yeux du monde, et j'en reviens à mes propos précédents. Celui qui perd sa vie dans ce monde la gagnera, mais dans le Seigneur, on est gagnant, gagnant de la vie éternelle, et puis aussi gagnant de la vie qu'on vit dans ce monde, gagnant en amour, en amitié, en fraternité, en sincérité, en esprit. Quand on fait confiance à Dieu, quand on décide de lui donner sa vie, de lui remettre sa vie entre ses mains, on ne peut pas perdre, on est forcément gagnant. Et c'est là ma première interprétation de ces talents qui nous sont confiés. J'ose croire que ces talents qui nous sont confiés, eh bien, c'est notre vie tout entière. Et alors, par rapport à cette vie qui nous est confiée, il y a plusieurs attitudes possibles, mais je vais la schématiser en deux attitudes possibles, soit être dans la crainte et dans la peur. Je sais que tu es un serviteur sévère, je sais que cette vie est dangereuse, je sais que ceux qui m'entourent sont mal intentionnés à mon égard, je sais que si, alors il va m'arriver, être dans la peur, dans la crainte du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur de la solitude, la peur de manquer, la peur de la maladie, etc., etc. Et alors, le risque, eh bien, c'est d'enterrer sa vie, ne jamais risquer, de ne jamais jouer, de ne jamais faire confiance, de ne jamais donner de son temps. Ou alors, il y a la possibilité, eh bien, d'être dans la confiance, d'oser risquer, d'oser donner, d'oser aimer, en prenant le risque de ne pas recevoir en retour, mais on sait que prendre ce risque, eh bien, c'est avoir l'assentiment de Dieu, l'assentiment du Seigneur. Ces talents qui nous sont donnés, c'est notre vie est très précieuse, beaucoup plus précieuse que ces 480 000 euros que je vous proposais de vous donner au début de ce culte. L'autre interprétation de ces talents, plus classique, est bien sûr que ces talents sont semblables à ces dons spirituels que nous recevons quand nous décidons de donner notre vie à Dieu. Il y en a de nombreux, suivant les épîtres de Paul. Les listes sont différentes et j'aime beaucoup cette liste que Paul nous donne dans son épître aux Romains. Je vous recite ces talents. Premier talent, le talent de prophète, de prophétisme. Alors quand on parle de prophète, on pense aux grands prophètes de l'Ancien Testament qui recevaient une parole de la part de Dieu à partager avec le peuple. Je crois qu'il y a toujours des prophètes dans notre monde, mais il y a aussi des personnes qui sont appelées au discernement. Être prophète, c'est discerner. Discerner dans l'histoire dans laquelle nous vivons, et bien ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, et rappeler au peuple, à l'Église, justement ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est un grand don, un beau ministère que d'être prophète, d'avoir cette exhortation à discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Deuxième don spirituel, le service, la diaconie. Certains ont reçu ce don-là, cet appel-là, à servir le prochain. Troisième don spirituel, l'enseignement, bien sûr, au cœur de l'Église, enseigner les jeunes et les moins jeunes. Et je m'en réjouis que cette année, plusieurs jeunes de notre Église vont entrer dans ce ministère d'enseignement. Quatrième don, le don d'encouragement. Je crois que dans la version de Bertrand, c'était le don d'exhortation. Exhortation, ça fait un peu sévère. J'aime mieux la traduction d'encouragement. Certains d'entre nous sont appelés à encourager, à aider, à soutenir. Et je lis ça notamment, enfin, c'est un des espaces possibles. Dans l'espace des visites, aller visiter des personnes, c'est les encourager. C'est être à leur écoute, c'est les aider à vivre, c'est leur dire « tu n'es pas seul, la communauté est avec toi et le Seigneur est avec toi ». Autre don spirituel, cher à notre trésorier et à tous les trésorniers, mais qui devrait être cher à chacun d'entre nous, c'est le don de donner. Il y en a qui sont appelés à donner. J'en reviens au grand capitaine d'industrie que je citais tout à l'heure. Il y a des grands capitaines d'industrie protestants qui donnent largement à notre Église. Il y a des grands donateurs qui le font de manière discrète, mais qui, somme toute, ont reçu ce don, voilà, peut-être de faire fortune, mais pour pouvoir aussi donner et permettre à l'Église de vivre. Le don encore de la présidence, précieux, ô combien précieux dans notre Église de Grenoble, où il y a de nombreuses associations, de nombreux présidents qui portent la responsabilité de guider ces associations. Et bien sûr, la présidence du Conseil presbytéral, qui est un ministère très important. Et enfin, le dernier don cité par l'apôtre Paul, qui est très beau. Le don de la miséricorde, dans la traduction de Bertrand, ou le don de la bienveillance. Et je préfère cette traduction de bienveillance. Certains d'entre nous, de manière toute particulière, sont appelés à la bienveillance et non pas à la malveillance. Nous sommes dans un monde, depuis toujours, je le crois, et c'est une dérive de la nature humaine, des petits mots. Dans le décalogue, nous entendions cette parole, ne dis pas des mensonges, des paroles trompeuses contre ton prochain. Et bien souvent, il y a cette tentation-là de dire du mal de son prochain. Certains d'entre nous sont appelés à cette bienveillance, à veiller bien sûr, à dire du bien des autres. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes... je le crois, si nous sommes rassemblés ce matin dans ce temple, c'est que nous sommes tous talentueux, avec des talents différents, mais appelés à les mettre au service du Seigneur, avec cette perspective, et je crois que c'est finalement le cœur de la parabole. Cette parole que le maître de maison dit à ses serviteurs, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Voilà.